Le masque et la plume. Tout sur une mère, une malédiction familiale, un beau roman d'amitié, la prise de parole d'un esclave et des jeux vidéo au programme de ce premier masque de rentrée littéraire en public au théâtre de l'Alliance française. On les entend, ils et elles sont quatre qui ont passé une bonne partie de leur été à bronzer entre les pages. Hubert Arthurs de Lire Magazine et du Parisien Weekend, Raphaël Léris du Monde, Patricia Martin de France Inter et Arnaud Vivian de Regard qui fête un anniversaire, 25 ans de masque. Bravo Vivian, bravo Arnaud. Aujourd'hui donc, il sera question de Une drôle de peine de Justine Lévy chez Stock, Haute folie d'Antoine Wauters aux éditions Gallimard, Comme en amour d'Alice Fernet, Actes Sud, James de Percival Everett aux éditions de l'Olivier et enfin Jackie d'Anthony Passeron chez Grasset. Alors, bienvenue à toutes et à tous. La rentrée littéraire, c'est bien sûr une histoire de plume sur France Inter. Alors vous avez été nombreux et nombreuses à réagir aux critiques du masque du 3 août dernier, notamment pour défendre les piliers de la mer de Sylvain Tesson. Alors moi, j'avais pas souvenir que le livre avait été si mal accueilli ici, mais l'âne trividique de Plougastel tient à mettre les choses au point. Une fois de plus, les critiques du masque ont démontré que leur zone de confort littéraire se limitait volontiers à Paris intramuros. Est-ce futile, est-ce utile, vain ou divin, de gravir les Stax ? Sylvain Tesson lui-même l'ignore encore probablement, mais par son style habile, subtil et accompagné de son précieux guide Dulac, il nous offre dans ce nouveau récit une respiration géographique et poétique qui n'ont malheureusement pas su inhaler vos critiques. Ceux-ci seraient-ils devenus des piliers de la mer ? En un seul mot, il y avait un jeu de mots, mal inspirés et faiblement emplumés. Un point de vue que partage Marie Gillot de Villaz. Fidèle lectrice de Tesson, je vous écoute et vous me décevez. Aucun intervenant n'a parlé de son art littéraire. Quand je lis Tesson, c'est d'abord pour son talent d'écriture. Je savoure ses phrases, quel que soit le sujet. Comme un bon plat, je le lis à petite dose pour faire durer la saveur qu'il procure. Dommage que votre débat ne soit que contre son récit. Alors en parlant de style, c'est le vôtre, cher Plume, qui a heurté le docteur Jean-Michel Pouzin de Sainte-Savine qui commence sa lettre sur un très urbain « Bien chers amis ». Dimanche soir, 3 août, il plante le décor, ma famille et moi écoutions le masque et la plume et quelle ne fut pas notre surprise en entendant le niveau de langue adopté par les critiques d'œuvres littéraires. Chiant, con, se fendre la gueule, telles sont quelques-unes des expressions entendues et parfois répétées. L'élocution elle-même était négligée, ouvre la syntaxe réduite à celle de l'usage le plus ordinaire, c'est-à-dire, par exemple, sans figure de style. Tout n'est pas que reproche, heureusement, dans le courrier. Je terminerai par Florence Develet, qui a été, je la cite, prise d'une envie irrépressible de remercier Alice, qui a fort bien défendu Le Dieu des bois de Lismour, que j'avais moi-même aimé. En effet, ce livre est une petite merveille de polar, un roman bonbon acide et noir, labyrinthique et hypnotique, qu'on ne lâche pas, tant on se fait aspirer par l'intrigue. Alors oui, messieurs les critiques, mais il y avait aussi une dame, le début demande une certaine attention et beaucoup de concentration pour parvenir à retrouver son chemin de lecture au milieu des nombreux personnages et des allers-retours dans le temps. Mais peut-on vraiment, par les temps qui courent et ce besoin d'immédiateté galopante et anxiogène, reprocher à un livre de nous astreindre à faire marcher nos méninges, notre mémoire et notre imagination ? Personnellement, j'ai eu l'impression de lutter contre un Alzheimer précoce en lisant ce livre, et rien que pour ça, il ne faut pas hésiter à se plonger dedans. Alors je ne vais pas citer la toute fin de cette lettre, le message est pour moi, il est très gentil. Merci Florence. On ouvre sans plus attendre avec Une drôle de peine de Justine Lévy. Aux éditions Stock, Justine qui poursuit dans sa veine autofiction avec un roman cette fois-ci plus frontalement autobiographique, puisque Justine Lévy baisse le masque, elle se présentait en Louise dans les romans précédents, elle apparaît cette fois sous son prénom dans une enquête menée sur sa mère Isabelle, morte d'un cancer en 2004. Le roman débute sur son enterrement et ce n'est pas la première fois que Justine Lévy évoque sa mère, c'était déjà le cas dans le formidable Mauvaise fille en 2009. « Maman revient », écrit la narratrice, et c'est vrai qu'elle revient, et elle prend toute la place jusqu'à hanter sa fille qui fait un devoir de mémoire qui va reconstruire le parcours de cette mère hors norme, fantasque, junkie, défaillant, très belle, avec une carrière de mannequin, une femme sous influence. C'est l'occasion aussi pour Justine de revenir sur sa propre enfance, qui n'en fut pas une, en tout cas au sens classique du terme. Être libre pour maman, ça passait par ça, ne pas s'occuper de moi. Il faut dire que sa mère avait quand même bien d'autres choses en tête. Une compagne, Violaine, défonçait l'opium, des copines féministes, des éditions des femmes qui entraînent la gosse tractée dans les manifs, un concert de magie trash, une fête qui dérape chez Bidule, le projet d'une manif contre Michel Sardou, le plus grand fasciste de l'univers, le cambriolage de l'appart en dessous, on voit le programme. Alors comment comprendre l'histoire cramée de sa mère ? Eh bien c'est le sujet de Justine qui revient sur ses méchants grands-parents maternels, bourgeoisie toxique, très maréchal nous voilà, au climat incestueux. Elle contacte Violaine, la compagne maléfique de sa mère. Elle enquête dans le bistrot où elle avait des habitudes. Elle décide, pour son voyage de noces, d'aller en Inde sur les traces de son fantôme. Et à noter, en plein cœur du texte, quelques pages recopiées du journal de sa mère. Et là, c'est une fulgurance littéraire. Raphaël, as-tu partagé cette drôle de peine ?
J'ai tout à fait partagé cette drôle de peine, qui est une traque d'un fantôme et qui était le fantôme était déjà fantomatique de son vivant. Et je crois que c'est pour ça qu'il hante de cette manière-là. Justine Lévy, tu as cité Laurent Mauvaismi, c'était aussi dans La Gaîté, mais même dès Le Rendez-vous, son premier roman en 95, je crois, elle était sur les traces de sa mère. C'est une présence qui lui a toujours manqué et qui lui manque d'autant plus dans La Mort. Et moi, ce qui m'attache au livre de Justine Lévy, c'est cette écriture qui se gonfle parfois de mélancolie, parfois d'angoisse, qui déborde, mais qui donne le rythme, la ponctuation, et aussi qui sait s'arrêter. Il y a un humour autodépréciatif merveilleux, irrésistible, accablé. Moi, tout ça chez moi marche beaucoup. J'ai eu une petite réserve à un moment donné en me disant quand même c'est un chagrin qui fait du surplace. Et en fait, je crois que c'est ça que j'aime le plus à la fin de ce livre, c'est que à rebours d'une espèce de vulgate qui voudrait qu'à l'issue d'une enquête, on soit un peu apaisé, on a trouvé quelque chose, c'est bon, on va mieux, qu'on aille mieux. Et ben c'est pas le cas chez Justine Lévy. Et le fait qu'elle nous laisse en plan comme ça à la fin en disant non, je ne vais pas mieux et qu'elle parte et qu'elle nous laisse juste ce livre là, je trouve ça assez bouleversant.
Arnaud, partages-tu cette opinion ?
Oui, je trouve que c'est un beau livre. Mais il y a quand même une chose qu'il faudrait tout de suite, à mon avis, dire, c'est qu'on est dans une rentrée, j'ai jamais vu ça de ma vie.
Tout le monde parle de son père ou de sa mère.
Exactement. Hein. C'est des tombeaux pour papa et maman, quoi.
Oh,
avec le plus malin des écrivains français, Régis Joffray, disons son nom, qui l'a appelé le sien, le portrait de sa mère, maman. Au moins, là, c'est clair. Hein, voilà, c'est. Alors, ça va de Mishka Assayas, Mishka Assayas, qui sort un portrait de sa mère, jusqu'à, Justine Lévy, en passant par Raphaël Enthoven, qui fait un portrait de sa mère, qui est donc, vous le savez, l'ex de Justine Lévy, qui se fait assassiner dans ce livre.
Une nouvelle fois.
Il y a des pages incroyables. Le portrait, parce qu'elle ne l'appelle pas Raphaël Enthoven, parce que c'est quand même vraiment des vrais petits soucis juridiques, parce que j'ai jamais vu des pages, un portrait d'une telle méchanceté chippie, qui est la caractéristique, si vous voulez, du style de Justine Lévy, pour aller vite.
Un style
je les ai tous lus. L'avantage, à mon avis, en plus.
Il y a aussi elle, Carla.
Sa mère.
Elle s'appelle pas Carla, mais
sa mère. Et le journal de sa mère. Elle reproduit des pages du journal de sa mère. On dirait le journal de Gombrowicz.
Il est formidable.
En style télégraphique. On est complètement.
Une liste happé. De médicaments, j'ai adoré. Mais
ce passage-là, qui n'est pas de Justine Lévy, qui est de sa mère, est absolument génial. Et la fin en Inde, parce qu'il y a un fait de tropisme indien aussi sur la rentrée, qui pèse sur la rentrée, qui est un truc d'époque aussi. Donc ça parle aussi de l'Inde. C'est le voyage en Inde est extrêmement drôle. Tout ça fait un beau tombeau. Alors, elle en avait déjà fait plusieurs. Hein. De toute évidence, là, je pense qu'elle a fait le tombeau parfait pour sa mère.
Donc c'est un cimetière, vous voulez dire ?
C'est un cimetière. Mais en fait, moi j'ai l'impression, là, si vous voulez, ça me pose un problème de critique. Hein. J'ai l'impression d'être guide au Père Lachaise dans cette rentrée. Alors là, vous avez le monument d'Emmanuel Carrère à ses parents, juste à côté, un monument tout aussi important, celui que consacre Mauvigné à ses aïeuls. Alors en plus, on passe au stade roman familial.
Catherine Millet à sa propre
roman
mère.
Roman familial. Ben super, merci.
Mais sachant qu'il y a une super visite au cimetière dans le
exactement
de ouais. dans le cimetière du Montparnasse, elle est merveilleuse. Cette
ouais. Un arrêt devant la table.
Complètement
le problème
paumé.
D'Arnaud, ça le met en colère parce que dans son cabinet de psychanalyste, il entend la même chose. Les gens ne parlent de leurs parents.
Prends des notes, Arnaud, prends des notes.
Ben oui.
Écris la mort des
non,
autres.
Non, mais si vous voulez, c'est un truc anthropologique. Hein, c'est que il y a, moi j'appelle ça donc une littérature funéraire. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça, qui devient un genre en soi.
Patricia.
Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord quand tu dis, Raphaël, qu'elle fait du surplace. Parce qu'il me semble que par rapport à un livre comme Mauvaise Fille, il y a un petit peu de colère en moins. Il y a notamment dans Mauvaise Fille une scène dont je me souviendrai toute ma vie, où elle va voir, des années après la mort de sa mère, le professeur oncologue qui s'est occupé d'elle, qui a beaucoup occupé les plateaux médiatiques d'ailleurs à l'époque, qui lui dit des choses qu'elle juge inacceptables et elle lui renverse, il faut quand même le faire, elle prend son bureau, sa table, et elle la renverse dans son cabinet. Et j'en ai la chair de poule en l'écrivant parce que c'est une scène d'une violence absolument inouïe.
En l'écrivant ? Oh, lapsus.
Ouais. Oh, pardon, oui, ouais. En l'écrivant, oui. Bon, et ici, je dirais qu'il y a une culpabilité et un remords un petit peu moins vifs. Est-ce que c'est ça, devenir adulte ? Je n'en sais rien. Mais c'est impossible de faire le deuil d'une mère, précisément impossible. Et moi, j'ai pensé aussi au livre de « Rien ne s'oppose à la nuit » de Delphine de Vigan. Sa mère s'est suicidée. Mais là, la mère de Justine Lévy, on peut dire que c'est aussi une sorte de suicide. Et très étrangement, elle est presque allée mieux. C'est peut-être le plus beau moment de sa vie, c'est quand elle a appris qu'elle avait un cancer. C'est absolument incroyable. Alors, c'est vrai qu'elle a beaucoup, elle a de l'humour vis-à-vis d'elle-même, mais elle est quand même vachement sévère. Parce que fichtre, elle est certainement une bonne mère pour avoir des enfants qui ne veulent pas rester des enfants. On se dit, bah, tu dois pas être mauvaise mère, ma vieille. Et il faut avoir du courage pour aller dans les lieux où elle est allée, revoir son horrible grand-mère, etc. Et à Mordel, à tous ces horribles moments qu'elle a vécu. Elle protège son père d'une manière, je trouve, très belle. Et puis, il y a Pablo. Son mari, qui est celui qui remet le monde en ordre.
Surtout en Inde, d'ailleurs, surtout lors du fameux voyage.
Je me dis, mais attends, mais elle doit quand même être sacrément aimable pour que ce type, parce qu'elle ne doit pas être facile à vivre tous les jours, pour que ce type reste là depuis des années auprès d'elle, à l'aimer presque pour deux, puisqu'elle ne s'aime visiblement pas beaucoup. Donc, oui, beau livre.
Beau livre aussi pour toi, Arthur.
Alors, je rejoins ce qui a été dit, je partage les arguments, mais j'ai senti aussi un fil à la patte de la part de l'autrice durant tout le livre, parce que j'ai relu Mauvaise Fille, du coup, à cette occasion, qui était paru en 2009, et qui était le premier des trois livres sur sa mère. Hein. Il y avait eu son premier roman en 1995, mais là, la mère, Isabelle de Trouligne, était encore vivante. Mauvaise Fille est celui qu'elle a écrit après le décès de la mère en 2004. Il y a des répétitions ici. Alors, les angles changent, mais les approches sont quand même les mêmes. Ce qui change ici, notamment, et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le travail sur la mère qui est devenue entre-temps avec des enfants qui grandissent, Justine Lévy, et comment, là pour le coup, le travail de deuil et le travail de maternité elle-même est très bien écrit. Mais à mon sens, bien que j'aime l'écriture, elle est hachée, elle est rusée, elle ne s'aime pas, mais elle s'en moque, elle se moque d'un peu tout le monde, mais surtout d'elle-même. Il y a une dérision et une autodérision. Elle est extrêmement honnête et extrêmement rusée et extrêmement intelligente dans son approche de sa matière littéraire de deuil, justement, Justine Lévy. Mais l'écueil, c'est l'écueil, à mon sens, auquel se heurtent beaucoup d'autofictionneurs et d'autofictionneuses françaises, c'est qu'à force de toujours tourner autour du même axe, un deuil qui, par essence, est impossible. Mais par exemple, pour cette rentrée, on a Chloé Delhomme, qui est une des grandes auto-fictionneuses françaises, mais elle change souvent son axe, elle le modernise, elle le politise. Justine Lévy, moi, il m'a manqué ça. Et du coup, j'ai l'impression que en tournant toujours autour du même deuil, ce qu'on ne peut pas lui reprocher humainement, mais ça manque littérairement, intellectuellement. Et du coup, moi, je me suis dit, elle a pas encore lâché les chevaux, et je voudrais qu'elle lâche les chevaux.
Intellectuellement, il faut relativiser. Ce qui est sûr, c'est que quand elle écrit sur sa mère, elle écrit beaucoup moins de bêtises que quand elle écrit sur Antonin Artaud, comme dans son précédent livre. Ça, c'est sûr.
Ah, il fallait qu'il y ait un coup de patte.
Mais je voudrais qu'elle lâche les chevaux, parce que elle parle beaucoup de la folie, de sa folie. Mais je voudrais qu'elle en fasse une chair littéraire de ça. Je voudrais qu'elle écrive la folie plutôt qu'elle écrive sur la folie. Et je voudrais qu'elle lâche les chevaux. C'est ça qui me manque, moi, chez Justine Lévy, que par ailleurs, j'estime assez hautement, mais ça me manque.
Une drôle de peine de Justine Lévy aux éditions Stock. Encore une histoire de famille centrée cette fois sur le père, avec le nouveau roman d'Anthony Passeron, Jackie, chez Grasset. Alors Jackie, ce n'est pas un inconnu pour ceux qui ont lu le premier roman d'Anthony Passeron, Les enfants endormis. Mais comme chez Justine Lévy, le père se déploie dans le texte, alors même qu'on annonce sa disparition dès la première ligne. Anthony a 14 ans à cette époque. c'est écrit « Mon père a disparu en l'espace de 3 consoles de jeux ». Et c'est tout le dispositif littéraire qui est dévoilé à ce moment-là. Passeron va mettre systématiquement en parallèle l'histoire de son père Boucher, qui va vivre un triple déclassement social, professionnel, familial, et l'histoire de l'évolution technologique des jeux vidéo. Le livre s'ouvre sur une Madeleine de Proust, un objet transitionnel, la console Atari 2600 reçue pour le Noël de 1989. Ce jour-là, le père joue avec ses fils, les jumeaux, ils ont 6 ans. En 3 chapitres, comme autant de parties, il va déclarer le game over. Alors pourquoi un tel livre ? Anthony Passeron répond dans un entretien « J'écris juste parce que je ne peux pas parler à mon père. C'est quand même ça le carburant premier de mon écriture. » On mesure alors toute la violence de ce projet d'un écrivain transfuge de classe. Hubert.
Alors là, pour le coup, on est aussi dans une sorte de... Enfin, c'est plutôt un mémoire un peu à l'anglo-saxonne qu'une autofiction, parce que là, il y a assez peu de fiction. Il y a une mise en espace, comme on dirait aussi en spectacle vivant. Il y a le récit de la relation entre deux frères jumeaux et un père. Et puis, il y a l'histoire des années qui font cette relation, vue aussi par la grande histoire du monde, vue ici par les jeux vidéo, l'informatisation, qui sont aussi un jeu de masques. Et ce qui m'a touché, c'est que là, on a Anthony Passeron qui tombe les masques, alors qu'il parle de jeux vidéo, de pop culture, d'entertainment, et il réussit à faire une histoire du monde des jeux, du ludique, et après à parler de la mort, parce que c'est une face B, tu l'as dit Laurent, de son livre précédent qui parlait de son oncle mort du sida. On le retrouve ici, en question. Ouais. Il y a aussi la nièce qui meurt du sida. Il y a aussi une autre personne qui meurt, mais je dis pas qui. C'est quand même un texte hanté par la mort, hanté par les gens qui tombent, qui disparaissent. Et comme dans les mêmes chapitres...
C'est une tombe.
Oui, mais comme dans les mêmes chapitres, il y a un paragraphe sur Atari, et puis un paragraphe sur le père Boucher, et puis les grands-parents, et puis Émilie, la nièce, etc. Je trouve que c'est, pour le coup, très très finement joué, mis en espace, très très bien écrit. C'est un petit peu générationnel, parce que c'est vrai qu'il parle juste du sida, sans le nommer. C'est difficile, cette période.
Il l'avait fait dans son premier livre.
Il l'avait fait
exactement.
Aussi dans ses premiers
livres. Oui, bien sûr. Son premier livre. Bah, en fait, la construction de ce livre, il reprend la construction de son premier livre, en fait.
Chaque fois, il y a un dispositif littéraire.
Qui est simple, hein, il tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers. C'est aussi simple que ça. Il y a là sa petite histoire autobiographique, et puis la grande histoire, donc le
précédent. La couture, vous par un ouvrier.
D'ailleurs, il y est un peu fait allusion dans celui-là.
Et que tu as su relever.
C'est le propre de ce livre d'être, moi, je trouve très beau et très discret. Justement, là, dans la visite du cimetière, hein, deuil pour deuil, comme dirait Desnos, il y a une tombe très très amusante puisque elle est en forme de console de jeu au lieu d'être en forme de livre, en fait, hein, puisque c'est ça, hein, la tombe, c'est vraiment un livre, c'est un parallépipède. On voit bien le rapport, hein, évidemment. Et donc dans cet art funéraire, là, moi, je trouve qu'on a un très beau tombeau.
Et c'est une histoire de frère aussi, c'est une très
Et donc, il y a ces pages un peu Wikipédia. Hein,
c'est ça, oui.
Un peu Wikipédia, mais bon, pourquoi pas.
Sur les concepteurs.
Va vite, et tout ça est de plus en plus sec. Et qui fait que soi-même, là, à la fin, moi, j'ai pris un petit coup, quoi.
Raphaël, est-ce que tu as pris un petit coup ?
J'ai pris un petit coup et moi j'étais gênée au départ par la reproduction du dispositif dont je trouvais qu'il virait au procédé, dont je trouvais qu'il trivialisait un peu l'histoire du sida qui était tellement cohérente et forte avec ce qu'étaient les enfants endormis. Bon, et en fait j'en ai pris mon parti, j'ai lu les pages sur les consoles Atari. J'ai lu rapidement le côté en effet Wikipédia. Je voyais bien l'idée du monde en grand et de ce village tout petit, de tout ce qui est en mouvement et de ce qui ne l'est pas. Bon, et puis, en fait, ce qui m'intéressait, c'était cette famille et cette manière de raconter un acharnement du malheur avec une voix très calme de celui qui ne parle pas. Parce que voilà, ce qu'il dit en permanence, c'est qu'on ne se parle pas et que plutôt que de se parler, éventuellement, la communication, elle passe par le fait de jouer ensemble. Et ça, je trouve ça magnifiquement reproduit dans le texte. Donc, on a le droit d'aller vite sur certains passages, c'est pas très grave.
Tu as fait ton tri aussi dans le texte, Patricia ?
Oui, mais jouer ensemble, et parfois les enfants, ces deux garçons, ils sont tellement en demande, et le père les envoie bouler au bout d'un moment. Ce qui aurait pu être un moment de partage et un beau moment entre eux, ben, c'était une porte qui ferme. Moi, les enfants endormis, moi, c'est un livre qui m'avait énormément marqué, que j'avais adoré. Alors, peut-être que l'histoire qu'il raconte, parce qu'il raconte l'histoire du sida, mais alors là, c'est pas du Wikipédia, c'est extraordinaire. Il revient surtout dans les moindres détails. Enfin, c'est
Dans le livre précédent. Oui.
Dans le livre précédent. Ouais. Là, l'histoire des jeux vidéo, elle m'a moins emballée, mais il n'empêche que c'est quand même extrêmement bien tressé. Et moi, j'ai chialé à certains moments parce que il veut réparer quelque chose de son père dont on comprend très bien déjà dans ce livre-là, mais encore plus en ayant lu Les Enfants Endormis, que c'était l'enfant presque mal aimé. D'ailleurs, celui qui a fait des conneries et qui en est... Pardon, on va se faire gronder par le monsieur...
De Sainte-Savine.
Qui est docteur et qui nous écoute et qui va dire qu'il ne faut pas employer des gros mots. Mais son frère qui, quand même, a...
A voulu sortir de ce milieu.
Voilà, mais a goûté à l'héroïne et puis il est mort, il en est mort, et puis sa femme et puis sa fille après. Ce garçon, c'était le préféré des parents, il s'appelait Désiré. Et les parents, jusqu'à la dernière minute, ne croyaient pas que ça pouvait être vrai, jusqu'au moment où ils l'ont vu se déliter sous leurs yeux.
Et l'autre enfant, donc, c'est Jackie. Désiré et Jackie, en effet, voilà. C'est deux...
Jacques, Maurice, Albert, dit...
Voilà. De son vrai nom, dit Jackie.
Mais il y a aussi, parce que ce qu'il faut dire, donc, c'est qu'il est boucher. Il a hérité de la boucherie,
Jackie. Une grosse boucherie qui marche bien.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est que arrive... Non, mais oui, t'as raison.
Et arrive au fur et à mesure les centres commerciaux.
Et évidemment, arrivent les hypermarchés. Et donc, il ne peut plus tenir la boutique à son nom. Parce que ce qui perd, c'est pas simplement son boutique, c'est ce qui perd, c'est son nom.
Exactement.
Et il n'a plus nom et il n'a plus qu'un prénom.
Et le nom, c'est terrible aussi. Ce qu'il raconte, Passeron, c'est que plus tard, quand il va à l'université, dans les couloirs de la fac, il entend que Jackie, en fait, ça signifie un beauf de campagne qui a une vieille bagnole bourrée de gadgets qui servent à rien et de mauvais goût. Et ça, il s'est pris une gifle. C'est comme si son père se l'était prise.
Il y a un côté Nicolas Mathieu, d'ailleurs, un peu dans ces moments-là, hein, sur le récit sociologique des années 80.
Oui, en mieux.
Ah oui?
Ah bah oui.
Il y a une étude de la virilité que je trouve très très belle,
beaucoup plus sec.
De la violence
non,
de la virilité.
Pour moi, en beaucoup plus sec, en beaucoup plus précis. Ça m'a rappelé un livre de Richard Morgiev, justement, qui s'appelait « Autour de Jackie », justement, le grand Jackie, je ne sais plus. Ouais. Il y a quelque chose de Morgiev chez lui, là.
Mais tu as raison de dire qu'il y a
quelque chose. Je me permets de terminer, cher.
Exactement, oui, j'allais dire, en 2025, quand même.
Voilà, parce que le père est désespéré de voir ses fils si peu portés sur la virilité comme violence physique. Eux, c'est pas le champ qu'ils investissent et lui-même voit sa virilité. Le père voit lui-même sa virilité. Voilà, il les envoie au judo. Il aimerait bien qu'ils se castagnent avec les gens du coin
pour
prendre leur place.
Il n'y a pas que ça.
Ça, moi, sur la virilité, je trouve ça vraiment extrêmement fort.
Ça me fait penser à une phrase de Virginie Despentes que j'aime bien, qui dit il n'y a vraiment que les riches pour penser qu'on s'intéresse à leur famille.
Eh bien, on va s'arrêter là pour
et donc non, parce que c'est la preuve que Virginie peut avoir tort parfois, parce que là, ce ne sont pas des riches, justement. Et en fait, voilà, c'est ça aussi. Quelque chose s'est démocratisé, y compris dans les pompes funèbres, visiblement.
Jackie d'Anthony Passeron aux éditions Grasset. Après Justine Lévy, après Anthony Passeron, on quitte les romans familiaux pour une fiction signée Alice Fernet, Comme en amour, c'est aux éditions Actes Sud, un roman qui peut se lire comme un diptyque avec La conversation amoureuse parue en 2000. L'histoire, c'est celle du lien qui se noue entre Marianne, une mère de famille à Colombes, créatrice de mode, elle crée des sacs, et Cyril, il est célibataire, un rien secret, un peu journaliste. Alors à ce stade, vous pensez, c'est une comédie romantique. Fausse route, c'est plutôt un roman d'amitié entre les deux qui... Comme en amour, selon le titre, se trouvent des points communs, des affinités littéraires. Par exemple, j'étais très sensible que tous les deux, et moi aussi, on aime tous Chardonne, qu'on ne lit plus actuellement. Bref, leur relation est une conversation, c'est très dialogué, avec des lettres jusqu'à la tragédie des SMS. Une conversation parfois interrompue quelques mois, mais qui se fait toujours plus intime, avec des inquiétudes. Je suis folle de raconter tout ça, se dit Marianne. Des non-dits du côté de Cyril, qui ne dit pas tout sur sa propre vie sentimentale, mais qui se pose en confident. Il écoute beaucoup, il parle peu, surtout dans les années difficiles pour Marianne. Son mari Serge la trompe. Il est question de divorce, de garde alternée. Bref, tout un monde qui va s'effondrer. Alice Fernet, c'est intéressant, déplie ce « Comme en amour » en 40 chapitres, toujours titrés de la même façon, sur le même mode, un verbe infinitif. Se rencontrer, rapidement se revoir, faire plus amplement connaissance, mais encore plus loin, trahir, être blessé, mentir, se heurter. Bref, il en est de l'amitié comme de l'amour. Patricia ?
Tu parlais de Chardonne, mais elle cite parce qu'il y a Emmanuel Bove, il y a Jean Guénaud, il y a Drieu La Rochelle. Enfin, c'est des auteurs dont on parle avec...
Mecs de droite, hein, quand même.
Oui, Emmanuel Bove, pas particulièrement.
Il y a Céline et surtout celui d'après-guerre. Hein.
Non, parce que, mais elle n'en fait pas l'économie, d'ailleurs. Elle parle de leur
Non, mais c'est intéressant. Mais parce que, voilà, c'est clairement... C'est un roman sociologique aussi. Hein.
Bah, je ne suis pas d'accord, justement.
Alors,
Patricia.
Elle saisit quelque chose de l'esprit du temps. Mais pour autant, elle ne se prend pas pour une sociologue parce qu'elle explore la vie avec toute la puissance romanesque qu'il faut. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, ce n'est pas une sociologue.
Ah non, ça, ce n'est pas une sociologue.
On confirme, ce n'est pas une sociologue.
Non, mais elle écrit dans un style très simple, qui correspond à l'époque, qui est très concret. Mine de rien, elle est effectivement très observatrice. Par exemple, dans une rencontre, elle va considérer en quoi pèse le corps de l'autre, l'énigme qu'on reste pour soi-même. Elle parle de la maternité, ça c'est pas la première fois qu'elle le fait, mais elle le fait très bien, la sororité, le fait que le malheur d'une femme est le malheur de toutes les femmes, sur les conditions des femmes aussi, qui sont élevées à être obéissantes plus qu'intelligentes, j'ai beaucoup aimé cette phrase. Moi, j'aime ses explorations, j'aime l'énergie de son texte, et je trouve qu'elle n'est pas tombée dans certains poncifs dans lesquels elle aurait pu effectivement choir, qui, entre l'amour et l'amitié précisément, c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait, entre ces deux êtres-là.
Hubert, est-ce que tu partages cet enthousiasme ?
Non. Parce que justement, moi, les poncifs, je les ai vus, mais alors bien allumés. Parce que justement, alors c'est un thème éternel. Et la littérature est faite, et c'est heureux aussi, de thèmes éternels. On parlait du deuil tout à l'heure, l'amitié et l'ambiguïté toujours possible, homme-femme ici. Bon, sur la forme, c'est appréciable. Les 40 chapitres courts, les titres, la titraille, comme tu dis, la forme très dialoguée. On a toujours les pensées de l'un et de l'autre. Donc sur la forme, c'est ok. Sur le fond, bah quand même, on a souvent touché le fond, parce que je trouve qu'elle n'évite pas justement un maximum de poncifs. Raconter ça en 2025 avec un manque de fond, que pourtant chez Alice Fernet...
C'est pas ton problème avec 2025.
J'ai aucun problème avec 2025, mais il faut le renouveler.
2025.
Hubert est contemporain.
2025, donc elle le raconte bien en 2025.
Mais voilà, dans Les Bourgeois, qui était un roman pour le coup, un peu, c'est son avant-dernier, là, on retrouvait ça. Une fois sur deux, elle vit juste, je trouve. Mais sinon, c'est quand même convenu. Là, c'est extrêmement convenu. Il n'y a pas de risque. Moi, je regrette, mais enfin, c'est bien les chapitres courts, mais on aurait pu faire des chapitres encore plus courts, moins de chapitres, on aurait eu une bonne novella, et je pense franchement que le résultat n'en aurait pas forcément souffert, ni littérairement, ni sociologiquement peut-être, mais Alice Fernet est capable de mieux.
Raphaël ?
Alors moi je trouve ça pour le coup extrêmement vintage, je n'avais jamais lu du
donc il y a bien un problème de contemporanéité.
Livre d'Alice Fernet.
Tu vois Arnaud ?
Non, et j'étais en train de lire au début, alors je butais sur tous ces rythmes ternaires, il est un ami, un allié, un proche, enfin, c'est beaucoup beaucoup de rythmes ternaires, ça serait bien que l'édition fasse un peu son boulot. Et je me disais tiens, on dirait un pastiche de Chardonne que j'ai un peu lu, puis soudain arrive une mention de Chardonne, puis
Emmanuel
de Drieu La Rochelle, de tous ces bannis, parce qu'on aime bien les bannis, il y a quand même un petit marivaudage autour de nous sommes plus intelligents que cette cancel culture.
Oh, mais pas comme ça.
Si. néanmoins, en fait, bon, pourquoi pas, mais alors d'un point de vue sociologique, moi, ce qui me pose un vrai problème, ce qui m'a beaucoup arrêtée, c'est que donc c'est une conversation qui se noue de coup de fil en coup de fil. Et donc le coup de fil a lieu à 19h, à l'heure est-il précisé, où Marianne fait le dîner pour ses trois enfants, n'importe quel parent qui s'est retrouvé à 19h, à faire le dîner, c'est-à-dire à gérer les devoirs, le bain, pipiler dans tout ça.
Pas téléphoner, c'est ça.
Qu'on l'appelle pour lui parler d'auteurs délicats, des sentiments, qui certes n'en faisaient pas trop des sentiments quand il s'agissait d'apporter des juifs. Eh ben, ça me pose un petit problème juste d'un point de vue de la pure rationalité narrative.
Cette rationalité, est-ce qu'elle t'a convaincu, Arnaud ?
Ouais, bon, évidemment, là, on peut dire que c'est vintage, mais
tu vois, tu y arrives toi aussi.
Non, mais pour moi, si vous voulez, ça ressemble un peu à une comédie de Romère. C'est le thème, c'est simple, c'est est-ce que l'amitié entre un homme et une femme est possible? Il se rend compte, elle est un peu star. Lui, c'est espèce, mais vraiment, c'est le dandy de droite. La nare de droite.
Il n'a pas un rond, hein.
Il a sa chambre. Rue Bonaparte,
quand même.
Plutôt bien situé.
Une belle adresse parisienne.
Tout ça se passe.
Quand même très correct.
Tout ça se passe dans le milieu culturel, mais justement pas de gauche. Enfin, en tout cas, lui pas. Ça, c'est certain. Et c'est assez beau, donc, parce que bon, elle est mariée avec un chef d'entreprise.
Oh, il est horrible, il est méchant. Qu'est-ce qu'il est méchant?
T'as vu? T'as bien compris.
Oh là là, un pervers narcissique.
C'est bien, il y a bien une sociologie. C'est
mais
celle.
Mais elle va divorcer.
Okay. Bah, méchant.
Ah, c'est lui qui divorce.
Et elle s'occupe de tout. Et donc, elle s'occupe de tout. Hein. Et en plus, elle dessine des sacs à main pour les hommes.
Ben oui, ça existe.
Ouais. Hein, mais oui, ça existe.
Et donc,
elle gagne beaucoup d'argent. Tout ça, moi, je trouve ça extrêmement drôle. Et donc, on va voir. Donc, évidemment, c'est une espèce de marivaudage quand elle est prise. Alors qu'on sent que peut-être. Mais ils sont toujours dans l'amitié. Et en réalité, c'est un vrai sujet. Est-ce que cette amitié est possible?
Eh bien, ça, c'est la fin du livre qui y répond. Et donc, on ne va pas spoiler.
Et moi, je trouve ça assez beau.
Oh. Alice Fernet, Comme en amour, aux éditions Actes Sud. Changement de registre, de pays, avec le nouveau roman de l'américain Percival Everett, James, aux éditions de l'Olivier, dans une traduction de Anne-Laure Tissu. D'abord, pour parler de ce livre, je voudrais citer Laure Murat, qui, dans son essai « Toutes les époques sont dégueulasses », pose la question de la réécriture ou de la réécriture des œuvres qui aujourd'hui posent des problèmes idéologiques et éthiques. En deux mots, par exemple, il y a la réécriture qui va lisser les Des petits nègres, on va changer le titre, d'Agatha Christie, ou alors la réécriture qui se charge de revitaliser une œuvre en écrivant une autre. Et Laure Murat cite, par exemple, ce James de Percival Everett. Réécriture des aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain, paru en 1884, mais cette fois en déplaçant le point de vue. Cette fois, c'est l'esclave qui prend la parole et qui écrit son histoire. Alors, James, au départ, c'est Jim. Il est esclave dans le Missouri avec sa femme, sa fille, au service de Miss Watson. Jim joue les analphabètes, il trafique son accent et joue la comédie du dialecte pour répondre aux attentes des Blancs, alors même qu'il sait lire, qu'il sait écrire et même plus. Et cette histoire du dialecte noir américain était au cœur du roman de Mark Twain. Elle devient ici l'arme même de la réappropriation. Alors, le roman déroule toutes les aventures de Jim, qui décide de fuir Miss Watson parce qu'elle va le vendre. Il rejoint les États anti-esclavagistes, flanqué de Huck, le jeune garçon qui va jouer à être son propriétaire, puisqu'on sait, un esclave ne peut pas se balader seul, c'est impensable, on est à la veille de la guerre de sécession. Alors on va suivre ce drôle d'attelage dans une suite d'épisodes à la manière des contes de Voltaire. Il y a du Candide, véritablement, dans ce roman qui revendique la filiation. C'est une course-poursuite, la tête de Jim est mise à prix, on y croise un couple de dangereux mythos malfaiteurs esclavagistes qui se font passer pour le roi de France, rien que ça, et un duc, des musiciens abolitionnistes qui pratiquent le blackface. Alors, comment Jim va-t-il retrouver sa famille? Pourra-t-il les racheter? Quel est le prix de cette liberté? Et comment Jim va-t-il devenir James? Ce roman d'émancipation a reçu le National Book Award en 2024, le prix Pulitzer de la fiction en 2025. Arnaud, quel est le prix que tu lui donnes aujourd'hui?
Ce livre, d'abord, de Laure Murat, toutes les époques sont dégueulasses, ça vaut 7 €, tout le monde doit le lire. C'est très agréable à lire, c'est pas du tout prise de tête, mais on voit bien dans ce qu'elle dit, il y a une différence entre réécriture et réécriture. Il faut bien prononcer.
Merci.
Donc là, c'est elle citait ce livre comme le parangon de réécriture. Alors évidemment, quand vous entendez Donald Trump déclarer qu'il trouve, je cite, que les musées nationaux américains mettent trop en avant les choses négatives de l'esclavage, vous vous dites que effectivement, ce genre d'opération que fait Everett est
salutaire,
nécessaire. On va pas s'étonner du procédé Kamel Daoud l'a fait,
dans son réécrire verso, l'étranger.
Voilà. Mais là, on avait la ref. J'ai envie de dire.
Là, tu l'as pas?
Mark Twain.
Ouais.
Je suis désolé, moi, j'avoue mon ignorance, je n'ai jamais lu Mark Twain. Donc, j'ai un problème, c'est que j'ai pas la ref. Et ce que je vois, c'est qu'il fait un pastiche, alors que quand même, Kamel Daoud ne faisait pas un pastiche d'Albert Camus. Mais lui fait un pastiche.
Là, c'est pas un pastiche.
Voilà. Pour moi, ce livre est l'illustration de ce fameux proverbe, savoir que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est que j'ai l'impression de lire le catéchisme, alors que je suis déjà converti.
Vous comprenez? C'est dommage.
Voilà, pour moi, c'est la limite. Ça ne fonctionne pas à mes yeux.
Patricia.
Pour moi, ça a tout de suite fonctionné. Je trouve que d'abord, le jeu avec la langue, c'était quand même un pari risqué. Le petit noir avec des R avalés et puis des mots qui se confondent, c'était plutôt casse-gueule.
Or, y compris à traduire.
Y compris à traduire.
Oui, la traduction d'un leur tissu est parfaite.
Il faut saluer leur tissu qui a vraiment fait une traduction formidable.
Qui est la traduction historique des vrais en France.
Tu as raison. Il y a un jeu avec la langue qui est incessant et qui est un enjeu dans l'histoire. Et ça dit beaucoup, ce livre aussi, du rapport intime qu'on a avec les mots, avec leur pouvoir subversif, à la façon dont ils peuvent assujettir un être ou pas. Il faut souligner aussi qu'Everett, il est passionné par la sémantique. Donc c'est assez savant d'un certain point de vue.
Mais il a une formation de philosophe.
Voilà, mais ça passe très très bien. Et James, il est complexe, il est lucide, il est intelligent. Sa relation avec Huck est parfois très très ambivalente. L'amitié, la solidarité avec les autres esclaves est là. Leur odyssée en plusieurs épisodes, on a des frissons dans le dos. Je trouve que ça fonctionne et ça tient en haleine merveilleusement. Le petit bémol que j'apporterais, c'est la fin. Moi, j'ai trouvé que la fin, elle n'était pas tout à fait à la hauteur du reste du roman.
Hubert ?
Alors moi, je trouve que c'est un très bon livre d'un auteur américain majeur, hein, qui doit être reconnu à sa valeur, mais ça part pourtant d'une mauvaise idée. J'aime pas ces des réécritures qui sont salvatrices, mais c'est une mode aussi maintenant, et ça devient un peu trop facile. Par exemple, en 2023, Barbara Kingsolver avait gagné, elle aussi, le prix Pulitzer, avec On m'appelle Damon Copperhead, qui était une réinterprétation du David Copperfield de Charles Dickens. Mais elle changeait l'époque, elle en faisait aussi un brûlot par rapport à la drogue et au commerce de la drogue sur l'anticapitalisme et donc dans l'Amérique de Trump. Là, ici, j'ai regretté qu'il change pas l'époque. C'est bien de mettre la narration dans l'autre sens, d'autant plus que les 100 premières pages du livre de Percival Everett, moi qui ai lu, et qui ai relu d'ailleurs, une des traductions du livre d'origine, ça se ressemble, c'est vraiment la même histoire vue de Jim. C'est après que ça devient une moins mauvaise idée, à mon sens. Parce qu'après, pour le coup, il prend, sans mauvais jeu de mots cynique de ma part, des libertés avec le modèle de départ Percival Everett. Et c'est là qu'il est brisé. Et c'est là qu'on se dit, Percival Everett, philosophe de formation, qui est quand même aussi un enfant de la pop, c'est un type qui a touché à tous les genres littéraires, il a fait du polar, il a fait du western, il a fait du roman sociologique, lui, pour le coup. Il sait faire ça, il sait. Là, et là, il s'amuse plus. Et c'est là qu'il y a le plaisir de la langue et la qualité de la traduction. Il y a énormément de second degré, les moments d'hallucination.
Pas trop, non.
Ou Jim, qui est lettré, qui du coup se fait visiter en espèce de délire nocturne par Voltaire, etc., et qui le cite, etc. Les autres, ils sont sciés. Mais c'est génial, ces scènes. Et là, pour le coup, c'est quand il prend liberté avec le modèle de départ qu'on le retrouve. J'ai regretté qu'il ne fasse pas ce que Colson Whitehead avait fait avec Underground Railroad, d'ailleurs, qu'il décale l'époque pour se réapproprier le tout et faire un contre-récit, une contre-histoire à la Tony Morrison.
D'accord, c'est donc
mais c'est un grand livre quand même.
Voilà, c'est un pastiche, il l'a pas.
Un exercice de style. C'est pas un pastiche, c'est pas un pastiche.
Il y a un côté exercice de style, en effet.
Mais ouais.
Raphaël.
Pour moi, c'est surtout une construction et il manque de l'émotion parce que j'ai l'impression qu'on sort pas tellement de la construction. Je trouve ça assez virtuose. Je suis très admirative de manière générale de l'œuvre de Percival Everett et puis de ses mots. Mais dans ces passages de délire où il dialogue avec Locke ou avec Voltaire, on sent tellement le mec qui est content de sa bonne, enfin le mec, pardon, l'auteur qui est content de sa bonne idée, qui se fait plaisir, que je trouve que ça bloque, il n'y a pas d'émotion, parce que j'ai l'impression que c'est une espèce de démonstration, une démonstration idéologique plus que littéraire. En revanche, il y a des passages que je trouve extrêmement bons, qui sont tout ce qui a trait à l'art du minstrel, qui est donc des blancs qui se déguisent en noirs.
Le blackface, oui.
Et donc là, ce sont des blancs qui se déguisent en noirs, mais il y a aussi, enfin, ce sont des noirs qui, oui, des blancs qui se déguisent en noirs.
Il y a des
blancs qui sont déguisés en noirs.
Il y a des noirs qui écriment en noir.
On est là, voilà. Sur le délire de la goutte de sang qui.
L'idée de la double inversion, quand même. Après, je veux dire, Marivaux dans L'île des esclaves, il le faisait déjà.
Oui, mais là, ça faisait pas à l'époque de Trump, où c'était vachement casse-gueule de le faire.
Mais un noir qui se déguise en noir, c'est quand même formidable. Ah, quand même.
D'accord.
James, de Percival Everett aux éditions de l'Olivier. Détour par la Belgique avec Haute folie d'Antoine Vauters chez Gallimard. Antoine Vauters, écrivain, poète, qui fut lauréat du prix du livre France Inter en 2022 pour Marmoud ou la montée des eaux. Alors, haute tension, c'est une maison de famille, c'est une ferme. Et le narrateur nous prévient dès la première page, toute notre histoire tient dans son nom. Cette histoire, c'est celle de Blanche et de Gaspard, et puis de leur fils Joseph, un enfant de malheur né le jour où la ferme prend feu. C'est le début du roman, un incendie. Gaspard y perd sa maison, une partie de ses bêtes, sa dignité, et quand pour survivre, il va se mettre à chercher un nouveau travail, il va être escroqué, humilié, bref, le voici porteur d'une histoire familiale qui est une malédiction. Mais le roman, qui porte en lui des envolées de poèmes en prose, c'est aussi et avant tout celui de leur fils, Joseph, après la disparition tragique des parents. Un homme solitaire, hanté par des silences, le manque, un orphelin même de son histoire, jusqu'au jour où sa tante lui révèle ses origines et la vérité sur le drame. Et c'est comme si tout s'éclairait pour lui, qu'il lui devenait possible de trouver un sens à sa vie, une vie d'errance, de saint laïc, un instituteur, puis tailleur de pierre, puis ermite, jusqu'au moment où, à l'âge de 40 ans, il décide de retourner à Haute Folie, peut-être pour déjouer la malédiction. Hubert, as-tu été sensible au parcours de Joseph? Es-tu hanté par ce livre, dont j'ai pu lire qu'il avait été écrit sur une quinzaine d'années?
Oui, alors là, je réponds oui à toutes les questions que tu viens
de poser.
Il y en
avait deux.
Parce que pour parce que c'est la grande héroïne du livre, c'est l'écriture, c'est l'arche dramatique, c'est on parcourt quand même une vie, donc des décennies, et c'est envoûtant dès la première scène. Il y a un grand incendie et un enfant va naître. C'est écrit d'une façon tragique mais brillante et quand même lumineuse. Et puis tout du long, on a des chapitres courts qui oscillent entre temps lent, un peu comme à la campagne, et des ellipses toutes réussies qui nous font accélérer quand même, parfois de quelques mois, parfois d'un an ou deux. On avance pendant toute la vie de cet homme, Joseph. Il y a une vraie famille dont il aura du temps à mettre du temps à connaître la vérité. Il y a une fausse famille. Il y aura deux grandes histoires d'amour. Je n'en dirai pas plus. Il y aura le fil qui nous rattache à une mémoire qu'on ne sait pas. Il y a le fil qui rattache à l'endroit de naissance. C'est un livre sur les mers dans tous les sens du mot mer, parce qu'à un moment, il habite au bord de l'océan aussi. C'est un livre sur la formation. Il va avoir des études contrariées.
Je dis quelques
étapes, mais là, encore une fois, c'est porté par un arche dramatique, des ellipses, un envoûtement qui nous font épouser les personnages, dont Joseph, et c'est assez sensationnel.
Raphaël ?
Je suis un petit degré en dessous dans l'enthousiasme par rapport à Hubert. Non, je trouve que c'est très admirable. Il y a une langue magnifique, un lyrisme sec qui est frappant, une histoire extrêmement intense. Après, ce qui me pose un petit peu problème, c'est le côté programmatique de ce livre, le titre, Haute Folie, les inserts d'un narrateur dont on comprendra à la fin qui il est. Et au fond, le fait que ce soit un livre sur le silence, c'est-à-dire à la fois sur les problèmes posés par le silence et la manière dont il empêche de se construire, mais aussi sur le silence comme endroit dans lequel on creuse la matière littéraire. Et je trouve qu'il a le silence bavard. C'est très démonstratif sur le fait que, vous avez vu, comme je suis silencieuse.
Se regarderait-il écrire ?
Ça n'est pas tout à fait exclu, cher Laurent.
Arnaud ?
Oui, alors il me semble que tu as fait un lapsus tout à l'heure dans ta présentation. C'est-à-dire qu'au lieu d'appeler le livre « Haute folie »,
qu'est-ce que j'ai dit ?
Tu l'as appelé « Haute tension ».
Ah, c'est vrai ?
Ouais, je crois. C'est ce que j'ai entendu.
Et là, le psychanalyste.
Il a des choses à me dire.
Parce que, évidemment.
C'est du pain béni pour toi.
Parce que moi, quand je lis Haute Folie, avec un trait d'union en plus, hein, vous imaginez, quoi. Haute Folie, c'est un peu comme sur les pochettes d'ACDC quand je voyais High Voltage ou To Play Loud, you know. J'ai l'impression que ça va être énorme, hein. Et du heavy metal, je vais me prendre dans la tête.
Du heavy metal.
Mais Hubert a raison, au lieu de me prendre les baffes, la fond,
le mur du sang,
secoue la tête comme
une tragédie, comme tu dis, tragique, tragique et lumineux, quoi, comme un concert d'ACDC. Ben non, pas du tout, quoi. Je veux dire, il y a quelques belles pages, parce qu'en fait, je sens quelque part que il a été influencé, ça, je trouve ça, bon, pour le coup, admirable, par Wittgenstein, dont il fait d'ailleurs l'exergue de son livre. Or, les pages, on sait que Wittgenstein a été instituteur pendant un moment, et donc il y a ce moment où il devient lui-même instituteur, c'est Job en fait, hein, je veux dire, la lecture.
Ben, c'est ça.
Enfin, on voit
Saint Laïc, bien sûr. Dire.
Moi, si vous voulez, quand Henri de Luca fait ça, hein, dans le tragique et lumineux, ça m'arrive de marcher, même très très fort. Moi, je dirais juste, quoi, Vauters, c'est peut-être beau, mais c'est pas mon genre de beauté.
Eh ben, moi, c'est mon genre de beauté.
Ah, je l'étais sûr.
Oui. C'est pour ça que je t'aime.
C'est
pour ça qu'on t'aime tous.
De complémentarité
totale.
Et dans un couple, je te dis pas comme c'est important.
Oh. On aimerait vous voir à un concert d'ACDC ensemble.
Oh,
c'est comme en amour.
Avec les styles. Là, il y a c'est quand même des textes extrêmement resserrés, minimalistes parfois. Moi, j'ai pas trouvé ça bavard. Effectivement, il s'est heurté. C'est un livre qu'il a mis longtemps à écrire parce qu'il a commencé à le faire. Et puis, il y a quelque chose qui a résisté. D'où vraiment,
il a attendu d'être père lui-même pour l'écrire.
Et que ça se passe pas forcément très bien, d'après ce que j'ai compris, avec la mère des enfants ou de son enfant. Il a dû apprendre à aimer à distance.
15 ans pour faire son analyse, ça va.
Bah, c'est pas mal.
Ah, c'est pas
écoute,
mal.
Non, mais du coup, moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose là de la nécessité d'une écriture ou pas. Et là, oui, ça a été nécessaire qu'il l'écrive. Moi, je trouve que c'est, je sais pas si c'est un auteur couvert de prix, mais je sais pas si le grand public le connaît autant que ça.
Mais il a eu le prix France Inter.
Le prix Inter, voilà, en 2005.
Le prix du livre Inter.
Ah bah, c'est quand même quelque chose.
D'accord.
Tu fais partie de la maison. Elle casse la baraque.
On est sur France Inter. T'es au courant que c'est notre chaîne.
c'était en 2021.
Et alors,
je vérifie, au débat oui ou non.
Et que les jurés, il y avait des jurés qui étaient extrêmement enthousiastes. C'est pas ça que je dis, mais vraiment le grand public, je veux dire, est-ce que tu le vois sur les plateaux télé, la radio, etc. Pas tellement. Je suis pas sûre que ce soit un auteur grand public et je trouve ça dommage.
Il est temps de conclure avec le meilleur de ce que vous avez pu voir, lire, écouter. Ce sont les coups de cœur du masque. Patricia, tu dégaines.
De Thibaut Delman, D-A-E-L-M-A-N. C'est un premier roman qui s'appelle L'Entre-oubli. C'est aux éditions du Tripode. C'est saisissant, flamboyant, d'une simplicité redoutable. C'est l'histoire d'une femme, une femme de parole dans tous les sens du terme, qui est entourée de garçons. Il y en a 5 en tout. Ça se passe dans un milieu populaire à Paris. Il y a un homme qui est là, mais qui est complètement alcoolo, donc c'est elle qui tient vraiment les rênes. C'est absolument magnifique, et L'Entre-oubli, ça vient d'un vers, et ça, Arnaud le sait déjà, de François Villon, qui s'entre-oubliait le soir à 9h, seul dans sa chambre, en entendant sonner les cloches de la Sorbonne.
Bon, bah alors Arnaud, tu dégaines le tien.
Dans cette promenade dans le cimetière, là, je suis tombé sur une tombe qui m'a plu. Enfin, voilà, c'est la tombe d'une mère. C'est un journaliste qui l'écrit en journaliste, c'est Paul Gasnier, qui travaille dans l'émission Quotidien, qu'on place en général à gauche, selon la préfecture. Il y a 10 ans, sa mère, donc, qui habitait à Lyon, à la Croix-Rousse, un quartier de la Croix-Rousse, qui avait ouvert un centre de yoga, qu'il y allait tous les matins en vélo, se fait tuer par un type qui roule en roue arrière sur une motocross, il maîtrise pas l'engin, il la renverse, elle meurt sur le coup. Pendant 10 ans, Paul Gasnier occulte cette histoire, ne veut pas en entendre parler, il y a eu un procès, évidemment, qu'il raconte, avec une sobriété exemplaire, parce qu'en fait, c'est un journaliste qui écrit. C'est ça que je trouve beau, hein. C'est un reportage, finalement, sur ce qui lui est arrivé, un drame qui lui est arrivé, qu'il essaye de comprendre. Il y avait cette phrase de Manuel Valls, malheureuse, quand il était Premier ministre, qui disait que chercher à comprendre, c'était déjà chercher à excuser. Eh bien, là, si vous voulez, c'est une réponse magnifique, je trouve, que fait Paul Gasnier à Manuel Valls, et l'ancien Premier ministre devrait lire ce livre.
Qui s'appelle
La collision, donc c'est l'accident évidemment.
Aux éditions
Gallimard.
Raphaël.
Je voudrais parler des Inconnus à qui parler, de Camille Bordas, qui est aux éditions De Noël. Camille Bordas, c'est une écrivaine française, mais écrit en anglais et qui s'auto-traduit depuis 2 livres, avant celui-là. Des Inconnus à qui parler, c'est le temps d'une longue journée. On est plongé dans un master imaginaire en stand-up. Donc, jusqu'au soir.
C'est super.
Ah, merci beaucoup, Arnaud.
Ouais.
Et donc, on a le plaisir du roman de campus à la David Lodge, qui est énorme, mais on est aussi face à des gens qui doivent comprendre comment faire rire et puis comment ils doivent gérer leur trauma, la violence qu'ils ont reçue et pouvoir en faire des blagues. Et je trouve ça extrêmement intelligent et en plus, ça apporte une pierre extrêmement littéraire à un débat sur peut-on rire de tout, comment, dans telles conditions. C'est très ambivalent, très riche, très intelligent et je précise, même si je suis sur France Inter, que j'ai un goût très modéré pour les comiques tarifés.
Hubert.
Moi, c'est un roman d'un Suisse, Joseph Incardona, aux éditions Finitude. Alors, Le Monde est fatigué, c'est le titre. Mais alors, lui, Incardona n'est pas du tout fatigué. Ses personnages ne sont pas fatigués. La preuve, c'est qu'il nous raconte l'année d'une sirène. Oui, d'une sirène. Ou plus exactement, d'une femme qui a toujours fait des grands numéros dans des grands parcs aquatiques pour des milliardaires et qui, après un grave accident, est handicapée de tout la partie inférieure du corps et donc est contrainte de faire des numéros de sirène. C'est son année de tour du monde dans les parcs des milliardaires. Parce qu'elle se fait louer aussi ses services, mais elle va profiter de ce tour du monde pour régler ses comptes parce qu'il va falloir qu'elle retrouve le propriétaire du parc aquatique où elle a eu ça, avec une poésie sur la vengeance d'une personne handicapée et une grande réflexion, mais ça, Incardona l'a toujours fait, hein, à travers des faits sur l'économie ultra-libérale et ce qu'elle fait de nous. Et ici, elle fait de nous une handicapée qui va se venger. C'est
un Suisse,
drôle,
ça, hein.
Ironiste à souhait.
Il est un écrivain suisse.
Oui,
ça n'excuse rien.
Il connaît bien le sujet.
Il connaît bien Joseph Incardona.
Quant à moi, j'ai choisi Le Fou de Dieu au bout du monde de l'espagnol Javier Cercas chez Actes Sud, que je viens de dévorer. Vraiment, Javier Cercas reçoit un appel du Vatican, en vrai, hein, qui l'invite à aller voir le pape avec d'autres créateurs à la chapelle Sixtine. Ça semble complètement fou et pourtant, l'écrivain qui se définit lui-même comme athée, anticlérical, laïque militant, rationaliste obstiné et impie rigoureux, va avoir accès directement au pape lors d'un déplacement en Mongolie. C'est un roman absolument formidable, monstrueux, entre la chronique, l'essai, le bizarre, un roman policier, avec une énigme, une question centrale, comme toujours chez Cercas, parce qu'il y a toujours une question au centre de sa littérature. Et cette question, c'est celle-ci. Au Vatican, les plus hauts responsables m'ont demandé de quoi je voulais parler avec le pape. Je leur ai répondu de la résurrection de la chair et de la vie éternelle. Je veux lui demander si ma mère verra mon père après la mort. Je ne vous donne pas la réponse. Et bien voilà, c'est fini, le masque tombe, on range la plume. Hubert Artus de Lire Magazine et du Parisien Week-end, Raphaël Léris du Monde, Patricia Martin de France Inter, Arnaud Vivian qui fête 25 ans d'émission.
Peut-être et de la dernière, attention.
Et de regard.
La dernière, comme dirait, la dernière saison.
Merci
Alain Duhamel.
À vous quatre d'avoir participé à cette tribune. Merci aux équipes,
au
Drucker. Public, bien sûr, de l'Alliance Française. Merci à vous. Cette émission a été réalisée par Stéphane Le Guenec, Guillaume Giroux, à la technique Claire Levasseur, Titouan Oex, Philippe Thibault, Isabelle Derex, Célia Dufour. Un grand merci à Elinka Negulesco qui a programmé et qui a préparé cette émission, cette première rentrée littéraire et qui m'a accompagné pour toutes ces émissions estivales. Dimanche prochain, vous retrouverez Rebecca Manzoni. Ce sera cinéma, alors vive la rentrée sur France Inter.